Vous écoutez RTL.
7h47, Olivier Mazerolle, vous êtes donc avec Yves Michaud, philosophe qui sort un nouveau livre. Son titre, Contre la bienveillance, c'est chez Stock.
Bonjour Yves Michaud.
Bonjour.
Vous êtes un philosophe qui aime bien confronter sa pensée à la réalité. Alors vous publiez ce livre décapant, brutal même, à rebours de l'ambiance du moment. Pour vous, la bienveillance et la compassion perpétuelle démolissent la société?
Je trouve qu'on est dans une politique qui est politique compassionnelle, politique de l'émotion, politique du spectacle aussi, de la communication qui permet,
la
compassion, de la minute du silence, de la marche blanche. Je pense qu'on oublie en fait les finalités du politique en se précipitant dans la bienveillance.
Comment ça? Parce que vous dites que le politique, par son absence, compose une société qui est une mosaïque de victimes qui toutes réclament leur dû et qu'il n'y a plus de lien entre elles.
Mais je crois qu'il y a eu une dérive de ce qu'on appelle l'état-providence, qui est en fait l'état de bien-être. Au départ, l'état-providence, c'est ce qui assure, je dirais, une vie bonne, la sécurité, l'enseignement, la santé, ce qu'on appelle les tâches régaliennes de l'État. Et puis, au fil de la richesse, au fil de l'évolution, au fil des progrès les prestations de l'état-providence deviennent les prestations d'un État guichetier, en quelque sorte. Chacun estime qu'il a droit à quelque chose
Vous êtes très énervé par les différentes communautés qui se créent. Alors évidemment, il y a les communautés religieuses, mais aussi les homosexuels, les hétérosexuels, les handicapés, ceux qui sont en bonne santé. Bref, tout le monde réclame quelque chose.
Alors, je ne suis pas opposé aux communautés, mais je suis opposé au communautarisme. C'est-à-dire à l'idée qu'à l'intérieur de la République, des groupes puissent essayer de faire valoir des droits qui sont des droits différents de ceux de tout le monde. Le contrat social, puisque c'est un livre sur le contrat social aujourd'hui, le contrat social demande aux gens d'abdiquer un certain nombre de leurs particularités pour pouvoir participer au pouvoir commun. Alors, il faut renoncer en quelque sorte à certaines particularités, pas à toutes bien sûr.
Est-ce que quand même n'allez pas trop loin quand vous décrivez l'État comme une sorte de Christ contemporain confit dans la compassion? Vous oubliez la fraternité quand même qui existe dans la devise de la République.
Justement, d'abord elle vient en troisième, je veux dire, il y a liberté qui se porte disons plutôt bien, on est quand même dans un État de droit. Égalité, alors là il y a cette revendication continuelle de l'égalité pour tout le monde. Moi j'ai écrit un livre sur le mérite il y a quelques années, en montrant comment, quand on pousse à bout une demande d'égalité universelle, on aboutit justement à l'État guichetier. Parce que comme les hommes sont tous assez différents les uns des autres, ils ont tous des revendications d'égalité différentes.
La bienveillance contamine tout. Pour vous, vous déplorez par exemple l'occasion manquée avec le débat sur la déchéance de nationalité. On s'est fixé sur les apatrides, sans motif pour vous.
Complètement, parce que je dirais que la déchéance de nationalité, elle sanctionne la rupture de la part d'un individu, de la rupture des conditions élémentaires du contrat social. C'est-à-dire qu'il considère qu'il n'a pas à respecter certaines lois qui sont les lois fondamentales de la République, par exemple la liberté d'expression, dans le cas de Charlie Hebdo, ou par exemple la liberté des citoyens de vivre en paix sans être sous la menace du terrorisme. Et je constate, d'ailleurs je rappelle dans le livre, que les deux premières constitutions de la République française sous la Révolution française, les deux premières constitutions, comportaient le droit, la déchéance de la nationalité, article 5 et article 6, en contrepartie de l'engagement citoyen, comme contrepartie, je dirais, de sanctions, de l'engagement citoyen des gens de participer
mais
à la Mais
vous allez
la
très
République.
Loin, parce que vous dites finalement, la déchéance de nationalité, on pourrait l'appliquer à tous ceux qui trahissent le contrat civique, par exemple ceux qui font de l'évasion fiscale à tire-larigot.
Alors je pense que ce qui a été faible dans la demande, dans la proposition de François Hollande, c'était de ne parler que des binationaux. Personnellement, je ne vois pas du tout d'inconvénient à ce qu'on crée des apatrides, y compris des apatrides vivant chez nous.
C'est ça, ils pourraient rester en France.
Bien sûr.
Mais privés de certains droits.
Le statut, avec les droits d'un étranger, le statut de l'apatridie, qui a été de 54, que la France a ratifié, et les Nations Unies, prévoit un statut plutôt favorable de l'apatride, donc, qui a les droits, en fait, d'un étranger. Mais du coup, effectivement, il perd les avantages de l'État-providence.
Mais alors, il faudrait forger, finalement, une sorte d'examen de la nationalité, dites-vous, pour qu'à l'âge de la majorité, on vérifie que le jeune connaissait bien ce que c'est que la nationalité française.
Je reviens à l'idée du serment civique de la Révolution française. La Constitution de 1791 prévoit un serment civique. Je jure d'être fidèle, à l'époque, c'était des monarchies constitutionnelles, je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution de mon pays.
Alors, vous dénoncez la bienveillance également en politique étrangère. Alors là, vous avez deux ennemis, BHL et Bernard Kouchner. Vous déplorez qu'ils aient quitté la rubrique mondaine. Mais quand même, vous y allez un peu fort. Ils ont eu tort de dénoncer les crimes.
Bah écoutez, j'ai toujours été extrêmement réticent envers la notion d'ingérence humanitaire. Et ce qu'on constate depuis quand même quelques années, c'est que toutes les initiatives dites humanitaires, de soutien à la démocratie, d'intervention dans les affaires des pays prétendument dictatoriaux, se sont soldées par des catastrophes. Ça commence par l'invasion de l'Irak. Dieu merci, c'est bien une des bonnes choses qu'a fait Jacques Chirac en 2003. La France a refusé de s'y associer, mais quand on voit l'aventure libyenne ou notre aventure en Syrie, très franchement, j'ai jamais compris. Ah, moi, je crois que les pays doivent agir strictement dans leur sphère d'influence ne pas vouloir se mêler des affaires de la terre entière. Imaginons que Marine Le Pen soit élue présidente de la République. Est-ce que les Français accepteraient qu'il y ait une intervention syrienne en France, par exemple, pour rétablir la démocratie?
Tout le monde trouverait ça lunaire. Elle n'a pas l'intention de massacrer
non,
les
mais
Français.
On pourrait imaginer que quelqu'un bien intentionné veuille faire une ingérence ingérée dans la politique française. D'une certaine manière, c'est ce que fait l'État islamique.
Et vous dites d'ailleurs que finalement la bienveillance généralisée nourrit le populisme. En quoi ?
Alors, je crois que le populisme, et qui n'est pas seulement le populisme français, hein, parce qu'il y a du populisme partout en Europe, et il y a aussi des populismes de gauche. Le populisme, je dirais, capitalise sur l'ensemble des souffrances. Or, comme les souffrances sont extrêmement différentes, eh bien, évidemment, il a des programmes qui sont des programmes informes, mais il capitalise au maximum l'électorat.
Mais j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. La fraternité, la solidarité, on ne doit rien faire pour ceux qui sont démunis dans la société française ?
Ah, pour ceux qui sont dans la société française, ça va de soi, mais de toute manière, c'est déjà le cas. Je veux dire, ceux qui sont démunis, les transferts sociaux, c'est quand même pas un
vrai mot. Oui, mais quand vous dites qu'on ne doit pas gratifier chaque victime en fonction de sa situation, que doit faire l'État ?
Parce que je crois que l'État doit se maintenir à ses missions, doit s'en tenir à ses missions régaliennes, parce que si l'État se met à entrer dans toutes les particularités, on va se retrouver dans des formes, ce que je dis, dans des formes de paternalisme. D'une certaine manière, je dis que Locke a écrit deux traités du gouvernement. Le premier était contre la patriarchie, on le lit jamais, et le second était la fondation de monarchie constitutionnelle. Eh bien, on est en train d'en revenir à la patriarchie. On est à l'État papa poule, en quelque sorte.
Quand vous écrivez que l'homme contemporain n'est pas généreux, que quand il fait un don, il se défiscalise, ce qui est tout à fait différent, vous n'êtes pas un cynique acariâtre ?
Absolument pas. J'essaye de décrire la réalité. Je ne suis absolument pas acariâtre. Je dis toujours que je ne suis pas un philosophe prescripteur, je suis un philosophe descripteur.
Merci Yves Michaud, votre livre donc contre la bienveillance chez Stock.
Le philosophe Yves Michaud qui est venu proposer donc son contrat social après celui de Jean-Jacques Rousseau ce matin sur l'antenne d'RTL et au micro d'Olivier Mazerolle. L'entretien est à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr.